Chapitre 4, lieu de culte. Quand un intérêt a été éveillé dans une ville, il doit être suivi. Il faut travailler dans cet endroit jusqu'à ce qu'un lieu de culte, si modeste fût-il, soit laissé comme un signe, un témoignage du sabbat de l'Éternel, une lumière dans les ténèbres morales. Ces monuments de la vérité doivent exister dans de nombreux endroits. Dieu dans sa miséricorde a voulu que les messagers de l'Évangile aillent dans tous les pays et vers tous les peuples de la terre, jusqu'à ce que la vérité ait pris pied dans toutes les parties du monde habité. Partout où un groupe de croyants s'organise, il faudrait construire une chapelle. Que les prédicateurs ne s'en aillent pas sans l'avoir fait. En bien des endroits où le message a été prêché, ceux qui l'ont accepté ne sont pas riches et ne peuvent faire que bien peu de choses pour que l'œuvre de Dieu s'installe d'une manière honorable. Souvent cela rend difficile l'extension de l'œuvre. Aussi lorsque des personnes s'intéressent à la vérité, les pasteurs des autres églises disent, et les fidèles font écho, ces gens n'ont pas d'église, ils n'ont aucun lieu pour se réunir. Vous n'êtes que quelques-uns, pauvres et ignorants. Bientôt, les prédicateurs s'en iront et personne ne s'intéressera plus à ce qu'ils ont dit. Alors, vous abandonnerez ces nouvelles idées. Pouvons-nous penser que de telles affirmations ne constituent pas une forte tentation pour ceux qui comprennent les raisons de notre foi, et qui sont convaincus par l'Esprit de Dieu que nous sommes dans la vérité? Il faut souvent répéter que de grandes choses peuvent avoir de petits commencements. Si nous nous occupons avec sagesse, un jugement sanctifié et une tactique habile, des intérêts du royaume de Dieu, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les gens soient assurés de la stabilité de notre œuvre. De modestes chapelles seront édifiées, où ceux qui acceptent la vérité pourront se réunir afin d'adorer Dieu selon les exigences de leur conscience. Toutes les fois qu'on le pourra, qu'on ne procède pas à la dédicace d'une chapelle alors qu'elle n'est pas libérée de toute dette. Quand on a décidé de bâtir une église, que les membres se mettent au travail. Sous la direction d'un prédicateur, conseillé par ses collaborateurs dans le ministère, que les nouveaux convertis travaillent de leurs propres mains, disant, « Nous avons besoin d'un lieu de réunion, et nous l'aurons. » Dieu désire que son peuple manifeste de l'entrain et unisse ses efforts en travaillant pour lui. Qu'on se mette donc à la tâche et bientôt l'on entendra des paroles d'action de grâce, voyez ce que le Seigneur a fait. Dans certains cas, toutefois, lorsqu'une jeune église ne peut immédiatement supporter tout le fardeau de l'érection d'une chapelle, que les frères des autres églises leur viennent en aide. Il vaut mieux parfois emprunter que de ne pas construire. Si un homme possède de l'argent et qu'après avoir donné ce qu'il peut, il soit disposé à faire un prêt, sans intérêt ou à un taux peu élevé, il serait bon d'employer cet argent jusqu'à ce qu'on puisse se libérer. Mais je le répète, si possible, que la dédicace des églises se fasse une fois payés tous les frais de la construction. Dans nos églises, les places ne doivent pas être louées. Les riches ne doivent pas y recevoir plus d'honneur que les pauvres. Qu'aucune distinction ne soit faite. Vous êtes tous frères. Dans aucune de nos constructions nous ne devrions rechercher le faste, car cela ne fera pas progresser l'œuvre. Notre économie doit témoigner de nos principes. Employons des méthodes de travail qui ne soient pas éphémères, mais qui soient valables en tout temps. J'ai reçu des avertissements concernant la manière insouciante dont certaines églises contractent ou conservent des dettes. Dans certains cas, la maison de Dieu a une dette continuelle. Constamment on en paie l'intérêt. De telles pratiques ne devraient pas exister. Si l'on fait preuve de la sagesse, du tact, du zèle que Dieu demande, on procédera différemment. On s'acquittera des dettes. Dieu désire que ceux qui peuvent donner le face et même les membres les plus pauvres peuvent faire quelque chose, si peu que ce soit. Il faut que tous aient un esprit de renoncement. Que jeunes et vieux, parents et enfants montrent leur foi par leurs œuvres. Que l'on insiste auprès des membres de l'Église sur la nécessité pour chacun de faire sa part. Quand tous désireront vraiment faire de leur mieux, Dieu ouvrira le chemin, car il n'est pas dans ses desseins que sa cause soit entravée par les dettes. Dieu nous appelle au sacrifice. Cela nous apportera non seulement la prospérité financière, mais aussi la prospérité spirituelle. L'esprit de renoncement et de sacrifice fera des merveilles pour le progrès spirituel de l'Église. La question que chaque chrétien doit se poser est celle-ci : est-ce que, au fond de moi-même, j'aime le Christ par-dessus tout ? Est-ce que j'aime sa maison ? Est-ce que le Seigneur ne serait pas honoré si son Saint-Temple était l'objet de mon premier souci ? Mon amour pour Dieu et pour mon Sauveur est-il assez profond pour me pousser au renoncement ? Lorsque je suis tenté de satisfaire à des plaisirs égoïstes, ne devrais-je pas dire : non, je ne dépenserai rien pour moi-même, tant que la maison de Dieu ne sera pas libérée de toute dette ? Notre Sauveur exige beaucoup plus que ce que nous lui donnons. Notre égoïsme empêche Dieu d'être premier servi. Mais le Seigneur demande notre cœur tout entier et toutes nos affections. Il ne se contente pas de la seconde place. Et le Christ ne devrait-il pas être le premier et le plus haut objet de notre considération ? Ne peut-il pas demander ce gage de notre respect et de notre loyauté ? Ces choses sont à la base de notre vie intime, au foyer et dans l'Église. Si le cœur, l'âme, la force, la vie sont entièrement consacrés à Dieu, si nous lui avons donné toutes nos affections, alors il sera aussi le premier à être servi en tout. Quand nous sommes en harmonie avec lui, la pensée de son honneur et de sa gloire passe avant toute autre chose. Il est le premier à recevoir nos dons et nos offrandes. Nous comprenons ce que cela signifie d'être les associés du Christ. La maison où Dieu manifeste sa présence à son peuple doit être chère et sacrée à chacun de ses loyaux sujets. Elle ne doit donc pas être criblée de dettes. Le permettre devrait sembler presque un reniement de notre foi. Vous serez prêt à faire un grand sacrifice personnel pour libérer de toute dette la maison où vous venez pour trouver le Seigneur et recevoir sa bénédiction. Toute dette à ce sujet peut être acquittée si les membres de l'Église font des plans et s'efforcent ensuite de les réaliser en s'y consacrant avec zèle et avec ardeur. Partout où l'on pourra ainsi se libérer, que l'on ait un service d'action de grâce, qui sera comme une nouvelle dédicace. La nécessité d'un lieu de réunion là où s'est constitué un nouveau groupe de croyants m'a été présentée dans une vision où j'ai eu une vue d'ensemble de la question. Je voyais des ouvriers bâtissant de modestes chapelles. Ceux qui étaient nouvellement convertis y travaillaient de leurs propres mains, et ceux qui disposaient de moyens financiers les mettaient à la disposition de la communauté. Dans le sous-sol, une salle de classe était préparée pour recevoir les enfants et un instituteur était désigné pour s'en occuper. Le nombre des enfants n'était pas élevé, mais c'était un heureux commencement. J'entendis les chants des enfants et des parents. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Louez l'Éternel. Mon âme, loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. L'établissement d'églises, l'érection de temples et de bâtiments d'écoles s'étendait d'une ville à l'autre, et la dîme augmentait sans cesse, afin que l'œuvre pût progresser. Nous nous implantions non seulement à un endroit, mais dans de nombreux endroits et le Seigneur était à l'œuvre pour accroître le nombre de ses soldats. Dans cette œuvre, toutes les classes de la société seront atteintes. Quand le Saint-Esprit travaille parmi nous, des âmes qui n'étaient pas prêtes pour le retour du Seigneur sont convaincues. Bien des gens viennent aux réunions et sont convertis alors que pendant des années ils ne s'étaient intéressés à aucun groupement religieux. La simplicité de la vérité touche leur cœur. Les esclaves du tabac sacrifient leur idole, et les buveurs également. Ils ne pourraient le faire s'ils ne saisissaient par la foi les promesses de Dieu qui pardonnent leurs péchés. La vérité contenue dans la parole s'impose aux classes élevées comme aux plus humbles, aux riches comme aux pauvres, et ceux qui acceptent le message deviennent ouvriers avec nous, et avec Dieu. Ainsi, nos forces s'accroissent en vue d'un travail harmonieux. C'est là l'œuvre que nous devons faire, et qui ne doit pas être négligée dans nos assemblées annuelles. Elle fait partie de tout effort d'évangélisation. Au lieu de nous efforcer de travailler pour les parias seulement, nous devrions chercher partout à réunir des groupes de croyants qui viendraient à nous pour nous aider à faire flotter bien haut la bannière de la vérité, et à travailler pour les riches comme pour les pauvres. Alors, au fur et à mesure que les églises seraient constituées, le nombre de ceux qui nous aideraient à travailler pour les parias et les délaissés serait accru. Bien des personnes qui ne partagent pas notre foi soupirent après le secours que des chrétiens ont mission d'apporter au monde. Si le peuple de Dieu montrait un réel intérêt pour ceux qui l'entourent, bien des gens seraient attirés par les vérités que l'Évangile a en réserve pour notre temps. Rien ne donnera son caractère particulier à l'œuvre de Dieu plus que le secours que l'on apporte aux gens en les prenant là où ils sont.